Auditeurs et auditrices des programmes du Studio Kalangou, merci de votre fidélité et bienvenue dans votre émission quotidienne Le Forum du Studio Kalangou, l'émission qui vous permet de trouver des réponses aux questions que vous vous posez au quotidien. Les statistiques nationales, quelle contribution dans le processus de développement du Niger? Les statistiques, qu'est-ce que c'est? En quoi les statistiques fournies par l'INS contribuent au développement? Comment s'est fait l'utilisation des données statistiques par le ministère du Plan? Quelles sont les difficultés dans la collecte, le traitement et l'utilisation des données statistiques? Ce sont, entre autres questions, auxquelles le forum d'aujourd'hui apportera des réponses. Pour ce faire, nous avons invité Issoufou Seydou, directeur de la coordination et du management de l'information statistique. Monsieur Issoufou Seydou, bonsoir.
Bonsoir, monsieur Alas.
Et monsieur Maynassara Assouman, directeur général du plan et de la prospective au ministère du plan. Monsieur le directeur général, bonsoir.
Bonsoir, monsieur Alassane, et merci de nous avoir invités à ce forum.
À la présentation, Alassane Kouzi Mahamadou. Nous parlons aujourd'hui de l'utilité des données statistiques dans le processus de développement au Niger. L'Institut national de la statistique est l'institution phare qui collecte, traite et publie diverses données statistiques sur l'ensemble du pays. Cette institution produit des données statistiques issues d'études portant sur divers secteurs de la vie socio-économique et éducative. Les données en question sont utilisées par des personnes morales ou physiques à des fins variées. Pour commencer, je vous demande de nous présenter en quelques mots les missions des structures et institutions que vous représentez. Je commence par vous, monsieur Maynassara Assouman, directeur général du plan et de la prospective au ministère du plan.
Merci pour l'occasion que vous nous donnez pour avoir entré avec les missions assignées au ministère du plan que nous représentons dans le cadre de ce forum. Alors, le ministère du plan dans l'architecture gouvernementale a pour mission la formulation, la coordination de la formulation de toutes ce qu'on appelle les stratégies de développement. En termes de stratégie de développement, il s'agit de stratégies de développement aussi bien à long terme qu'à moyen terme. À long terme, c'est à l'image de la SDDCI, la stratégie de développement durable et de croissance inclusive Niger 2035 que nous avons élaborée, qui est un document de vision prospective à l'horizon 2035. Et le deuxième document, c'est le plan de développement économique et social. Le plan de développement économique et social, c'est aussi un document de planification à moyen terme, donc sur 5 ans, qui est la première déclinaison de la stratégie dont nous avions évoqué tout à l'heure. À ces deux documents stratégiques, il faut ajouter aussi l'accompagnement du ministère du plan à l'ensemble des institutions sectorielles et des autres acteurs, notamment les OSC, le secteur privé, pour qu'ils puissent disposer d'un document de stratégie de coordination, de pilotage des actions en ce qui concerne les différents secteurs. Donc voilà ce qui concerne d'abord le volet planification que nous représentons. Le deuxième de volet de mission du ministère du plan, c'est la mobilisation des ressources, la mobilisation des ressources extérieures. Une fois que ces documents sont élaborés, il faut mobiliser les ressources pour leur mise en œuvre. Alors c'est là où la mission première du ministère du plan, c'est d'abord d'accompagner les différents ministères pour qu'ils puissent disposer des programmes et projets afin de mobiliser les ressources pour la mise en œuvre de ces documents stratégiques. Ça, c'est le premier élément. Mais le deuxième élément, il faut traduire ça dans ce qu'on appelle un document de programmation des investissements qui est intégré dans la loi des finances. Et ça, la mission de la programmation des investissements de l'État est une mission dévolue au ministère du plan. Maintenant, il faut assurer la mise en œuvre. La mise en œuvre, c'est faire en sorte que les ressources qui ont été mobilisées soient disponibles au niveau des différents acteurs concernés Donc, à travers le processus de la passation des marchés, à travers les différentes missions de supervision que le ministère du Plan est censé organiser, le suivi et l'évaluation. Il ne sert à rien de mobiliser des ressources, il faut s'assurer quels sont les résultats auxquels donc, la mise en œuvre en est parvenue. C'est ça la mission dévolue au suivi et évaluation. Maintenant, quand on prépare la loi des finances, il y a ce qu'on appelle le cadrage macroéconomique. Le cadrage macroéconomique, c'est-à-dire c'est de faire une estimation de quelles sont les ressources que nous pourrons mobiliser au titre de l'année ou sur les 3 ans, quand il s'agit donc du programme des investissements de l'État, pour faire en sorte que ces ressources soient d'abord, un, mobilisées pour aussi bien du point de vue interne que du point de vue externe. C'est ce qu'on appelle le cadrage macroéconomique. Les ressources et en même temps les prévisions en termes d'affectation, d'allocation des ressources.
Et c'est là où c'est dévolu au ministère du Plan.
Cette mission est dévolue au ministère du Plan en termes de l'élaboration du cadrage et les études économiques. En résumé, voilà ce que nous pourrons dire des missions dévolues au ministère du Plan.
Merci. Nous nous tournons vers vous, M. Issoufou Seydou, directeur de la coordination et du management de l'information statistique. Pouvez-vous nous dire en quelques mots également les missions principales de l'institution que vous représentez, notamment l'Institut national de la statistique?
Ok, merci M. Alassane. Donc, avant de décliner les missions donc, de l'Institut national de la statistique, permettez-moi d'abord de replacer donc, l'importance et l'utilité de la statistique en tant qu'outil d'aide à la prise de décision. Et là, donc, y a un chercheur donc, qui résume donc, le rôle de la statistique à travers donc, une citation que je vais citer. Connaître, c'est mesurer. Connaître, c'est mesurer de la mesure où la statistique nous indique comment effectuer des mesures. Une fois que ces mesures sont faites, la statistique nous indique également comment extraire l'information à partir donc, de ces mesures. Et pour ce qui concerne les cas du Niger, il faut relever que le développement de la statistique est le fruit d'un long processus qui remonte à 1959 il a été créé un service de la statistique et de la mécanographie. Donc c'est ce service-là qui a connu plusieurs mutations. Ces mutations ont donné naissance donc à l'Institut national de la statistique et à travers la loi numéro 2004-011 du 30 mars 2004 modifiée et complétée par la loi 2014-66, donc du 5 novembre 2014. Et cette loi aussi, à travers aussi la création de l'INS, régit aussi l'activité statistique au Niger. C'est pour dire qu'au fait, l'INS est un des organes de notre système statistique national. Parce que pour le cas du Niger, on parle du système statistique national. Et ce système-là est composé d'un certain nombre d'organes, à savoir le Conseil national de la statistique, qui est un organe d'orientation et qui est chargé de veiller à la mise en œuvre des orientations gouvernementales en matière d'activité statistique. Et la présidence donc, est assurée par le ministère du Plan, donc, qui est le ministre de tutelle, donc, qui est le ministère de tutelle donc, de l'INS. Et en plus donc, du Conseil national de la statistique, nous avons l'Institut national de la statistique, donc, l'institution que je représente, qui est l'organe central
du système statistique national.
Effectivement. Et en plus donc de l'INS, nous avons les services chargés et des statistiques des départements ministériels et également donc les écoles nationales de formation en statistique et en démographie. Et pour ce qui concerne donc l'INS en tant qu'organe central, donc il est chargé donc par certaines missions, à savoir donc assurer d'abord donc la coordination des activités du système statistique national. L'INS aussi est chargé de produire et de mettre à la disposition des utilisateurs une information statistique répondant aux normes internationales habituellement reconnues en matière statistique et relative à l'ensemble des domaines de la vie de la nation. Et l'INS aussi est chargé de centraliser les données produites par l'ensemble des services et organismes du système statistique national et d'assurer et leur conservation et le cas échéant, leur diffusion. Et l'INS est également chargé de favoriser le développement des méthodologies et de la recherche appliquée dans le domaine de la collecte, du traitement et de la diffusion des données statiques et de veiller à la diffusion d'une information de qualité par l'ensemble des services et organismes relevants du système statistique national. Et enfin, donc, selon la loi, l'INS est chargé de promouvoir la formation des cadres dans les domaines de la collecte, du traitement, de l'analyse et de la diffusion de l'information dans les établissements statistiques, dans les établissements de formation statistique, notamment donc, à travers les cycles de perfectionnement dispensés par l'INS.
Bien. Voilà. Monsieur Maina Sarah Souman, directeur général du plan et de la prospection, pour vous, et de la prospective, excusez-moi, pour vous, les statistiques, qu'est-ce que c'est?
Très bien. En tout cas, c'est une question. Nous qui sommes planificateurs.
Quand on se place du côté du planificateur,
la statistique, c'est vraiment un outil d'aide à la décision. Pour nous, c'est quelque chose qui nous aide à prendre des décisions. Des décisions en termes de définition du futur désiré, des définitions en termes de où est-ce que nous. Comment améliorer ce que nous sommes en train de faire et des décisions aussi sur les orientations qu'il faut apporter. Voilà à peu près ce qu'on peut caricaturément, en tout cas, dire en termes de statistiques. Pour nous, ça nous aide à prendre des décisions idoines pour améliorer
le présent et le futur.
Bien. Parce que le passé, c'est le passé.
Oui. Alors, M. Issoufou Saïdou, directeur de la coordination et du management de l'information statistique, dites-nous quels sont les types d'enquêtes réalisées à l'INS, les secteurs concernés, ainsi que les profils des utilisateurs.
De sa création à nos jours, l'INS, quand je parle d'enquête, puisque au sens large du terme, donc y compris les recensements, l'INS a réalisé 4 recensements généraux de la population. Je parle des recensements réalisés en 1977, en 88, en 2001 et en 2012. Il y a aussi plusieurs enquêtes, parce que, au fait, quand on parle d'enquête, parce qu'il y a des enquêtes réalisées souvent donc, à la demande donc, des utilisateurs. Donc, il y a des enquêtes beaucoup plus à caractère social, donc surtout les enquêtes pauvreté. Je veux parler donc de 5 enquêtes donc, en tout cas, qui sont récemment réalisées sur la pauvreté. Donc, je parle de l'enquête sur les conditions de vie des ménages et de l'agriculture qu'on avait réalisée en 2014 et 2011. Je parle aussi donc, de l'enquête sur le budget consommation et NPC réalisée donc, en 2008 et également de l'enquête KIP, donc questionnaire unifié sur les indicateurs du bien-être.
Et on parle et aussi souvent plus, des DSN, c'est quoi?
Je viens, donc, en fait, donc là, j'ai parlé des enquêtes sur la pauvreté. En fait, ce sont des enquêtes qui nous permettent donc d'estimer le taux de pauvreté. Pour savoir au Niger, il y a combien de pauvres et aussi le taux de pauvreté réparti selon les régions. Et donc, en plus donc, de ces enquêtes-là, et sur les conditions de vie des ménages, il y a aussi donc des enquêtes sur les enquêtes démographiques et de santé, des EDS. Et là, au fait, le Niger donc, a réalisé 5 EDS, donc, dont la dernière donc, remonte à 2017, après celle de 2012. Voilà. Donc c'est ça, les enquêtes démographiques et de santé EDS.
On sait que l'État utilise en grande partie les données que vous produisez. Mais est-ce qu'on peut avoir une idée des autres utilisateurs?
Effectivement, en 2017, nous avions réalisé une enquête sur la satisfaction des utilisateurs, donc des données statistiques. Et au fait, l'enquête aussi donc, a relevé que les principaux utilisateurs, c'est surtout l'État, parce que le gouvernement. Parce qu'au fait, quand on regarde même l'historique de la SASIC, les SASIC ont toujours été une affaire d'État. Voilà. En plus de l'État, donc, nous avons les partenaires, les chercheurs, les étudiants et aussi donc, les médias. Voilà.
Bien. Alors, quelle est la place occupée par les données statistiques au sein du ministère du Plan? Cette question s'adresse à vous, M. Maina Sarah Assouman, directeur général du Plan et de la prospective.
Aussi bien en termes de planification qu'en termes de programmation, la mise en œuvre ou le suivi évaluation, nous avons besoin des données. Nous avons besoin des données pour comprendre qui nous sommes. C'est-à-dire, c'est en fait la description de notre, ce qu'on appelle l'analyse de la situation, le diagnostic. Il faut des données pour comprendre comment est-ce que la situation des différents citoyens a changé ou bien dans quel état elle est. C'est de là que ressort le problème, là où il faut trouver une solution. Qui donc dit problème, dit il faut des données. C'est ça les statistiques. c'est même le cœur de notre travail. C'est ça qui nous permet de comprendre quels sont les besoins des populations et en même temps, à partir de ça, nous proposons donc des solutions.
Je voudrais m'adresser à vous, monsieur Issoufou Saïdou. À l'INS, vous dites que la statistique est un outil d'aide à la prise de décision. Alors, comment illustrez-vous concrètement cette expression?
Effectivement, d'abord, il y a un contexte donc, par rapport auquel donc, je disais que notre système statistique national remonte à 1959. Mm. Et de 1950 à nos jours, donc, cela fait 60 ans. Mm. C'est pour cela que nous avons fêté le 26 juin passé, donc les 60 ans de la statistique. De la, ouais. De 59 à nos jours, donc, le système statistique national a connu plusieurs mutations. Et j'ai parlé donc celle la plus décisive. C'est celle de 2004. Et puis celle de 2004 aussi est liée à un contexte. Donc par rapport donc, à l'émergence de certains besoins, et surtout en lien avec le suivi des objectifs du millénaire pour le développement au niveau international, et aussi la stratégie de réduction de la pauvreté. Et en plus de ça aussi, donc, il y a les réformes donc, pour ce qui concerne la déconcentration et la décentralisation. Et toutes ces exigences-là donc, ont nécessité la disponibilité d'informations statistiques. Parce que on s'est dit que, comme l'avait précisé M. le DGPP, on ne peut pas naviguer à vue, au fait, sans avoir donc, des objectifs, sans avoir des cibles objectivement vérifiables, donc permettant d'atteindre donc, les objectifs relatifs donc, à l'amélioration du bien-être de la population. Mmh. En fait, c'est dans ce contexte-là que l'INS a été créé en 2004. Et aussi, la loi de 2004 régit le système. Parce que l'INS aussi opère dans un système. Et mieux encore, quand on prend aussi donc, les aspects récents, l'INS aussi a joué un rôle important en ce qui concerne la formulation du PDS 2017-2021. Cela aussi nous a amené aussi à arrimer notre stratégie nationale de développement de la statistique au PDS pour toujours rendre disponibles donc, les données fiables et de qualité à la disposition du public.
Alors, en quoi les statistiques contribuent au développement?
Par exemple, donc, prenons terre à terre donc, un exemple dans le domaine de la santé. Dans le domaine de la santé, il peut y avoir donc, une épidémie qui se déclare donc, dans le pays. Maintenant, par rapport à cette épidémie, si on ne connaît pas la population du pays, on peut commander donc les médicaments ou bien des vaccins à les surestimant. Quand on les surestime, donc vous voyez, donc les médicaments et les vaccins sont périssables. Donc cela peut engendrer
ça
des
pertes. Ça peut aussi être l'inverse, une sous-estimation.
Ça peut être l'inverse. Donc vous voyez, donc si on a une idée précise de la population, on peut commander de façon efficace et efficiente les vaccins pour pouvoir éradiquer l'épidémie. C'est quand je prends l'exemple de l'épidémie. En fait, c'est aussi valable donc, pour tous les
d'autres secteurs.
Pour d'autres secteurs. Mmh. C'est aussi, comme le DGPP l'avait relevé, pour le cas du PDS 2017-2021, donc, qui est accompagné d'un cadre de mesures de rendement par rapport donc, à l'impact qui est relatif donc, à l'amélioration du bien-être de la population, et les effets globaux et les effets spécifiques. Mmh.
Voilà. Alors, merci. Monsieur Menassara Ousmane, directeur général du plan et de la prospective, comment se fait l'utilisation des données statistiques par le ministère du plan dans la planification, la mise en œuvre et le suivi et évaluation des politiques, programmes de développement et programmes de développement?
D'accord. Alors, donc, tout à l'heure, j'avais anticipé les réponses à cette question. Oui. Alors, on ne planifie pas si on ne connaît pas son passé. Il faut connaître le passé avant de finalement se questionner sur son présent et se projeter sur le futur.
Donc, il faut partir sur une base.
Il faut faire ce qu'on appelle la rétrospective. Et qui dit rétrospective, ça veut dire qu'il faut regarder derrière le rétroviseur. On regarde le rétroviseur pour comprendre comment est-ce que nous sommes, comment est-ce que nous étions, comment nous avons évolué. C'est très important, les données, pour le comprendre. Donc ça, c'est un premier élément. Mais le deuxième élément, maintenant, qui nous sommes, la situation actuelle, c'est là aussi encore, ça, la réponse, elle sort de ce qu'on appelle l'analyse de la situation. L'analyse de la situation sur la base des données les plus récentes, les données actuelles. Et maintenant, deuxième élément, tout ça c'est ça la planification. Le passé, y compris le présent, et maintenant on se projette, donc on planifie pour le futur, si c'est 3, si c'est 5 ans, le plan de développement économique et social, si c'est la vision dont on a parlé tout à l'heure de 20 ans, donc le Niger à 2035, donc on se projette en 2035, on s'est projeté en 2035 pour dire voilà les différents changements que nous souhaiterons qui se manifestent au niveau des différents des Nigériens. Ça, c'est du point de vue de la planification. Une fois que c'est planifié, mais maintenant, il faut se dire, il faut mettre en œuvre. Et la mise en œuvre, elle se fait par les différents acteurs. Chaque acteur doit faire ce qu'on appelle la planification opérationnelle. On fait des plans d'action. Des plans d'action, un an, d'autres font des plans d'action de 3 ans. Ces plans d'action, c'est pour dire comment est-ce que je mets en œuvre les plans de développement économique et social tels que nous l'avons dit. Alors, ce plan d'action doit se dire où est-ce que nous sommes, la situation. Nous sommes présentement en 2019. En 2018, quelles étaient les valeurs des différents indicateurs? Ce qu'on appelle indicateur, c'est une unité de mesure d'un changement auquel nous aspirons. Cet indicateur-là, il était de combien en 2018? Et nous voulons qu'il soit de combien en 2019? Nous sommes en train de préparer le budget 2020. Alors, chaque ministère, il s'est dit, voilà ce que je veux atteindre en 2020. Et voilà ce qu'il est en 2018. En 2018, il donne la situation à mi-parcours en 2019. Donc, ça, c'est par rapport à la mise en œuvre. Maintenant, la mise en œuvre se fait de façon continue. Et il faut faire le suivi au jour le jour et l'évaluation qui se fait de façon périodique. Au jour le jour, il faut que, quand on demande à un ministère les ressources qui ont été mises à votre disposition, à quel taux de consommation, c'est-à-dire combien ont été dépensés, ça, c'est le suivi qui permet de le faire. Mais l'évaluation se fait à des périodicités. Ça peut être tous les 2 ans. Ou tous les 3 ans, et à ce moment-là, on s'arrête pour regarder les grands changements. On ne regarde pas comment on a évolué au jour le jour, mais on regarde les grands changements qui se sont opérés. Il a parlé tout à l'heure de l'impact. Il a parlé de l'impact, c'est à peu près des changements du long terme qui se manifestent.
Et à quel moment de ces étapes, vous faites le plus recours aux données statistiques?
On est obligé de faire recours aux données statistiques sur toutes les périodes. Mais les données ne sont pas les mêmes. Il y a ce qu'on appelle des données de routine. Les données de routine ou des données administratives, elles-là, nous les utilisons en ce qui concerne la mise en œuvre et le suivi. Mais il a parlé tout à l'heure de l'impact et l'effet. C'est là où nous utilisons ce qu'on appelle les enquêtes-là. Il a parlé des enquêtes.
Sur la pauvreté.
Entre autres, ça peut être sur la gouvernance, sur l'agriculture, sur l'environnement. Alors là, c'est des enquêtes, c'est vrai, il faut questionner le maximum un grand échantillon des bénéficiaires pour voir les changements tels qu'ils se sont opérés. Donc, nous utilisons toutes les données, mais des données différentes. Ça peut être des données de routine, ce qu'on produit au jour le jour. Ou alors, ça peut être des données d'enquête. Si les données d'enquête, ça, c'est vraiment pour dire, en termes de changements qui se manifestent, donc voilà ce qui commence à se faire. Voilà ce qu'on peut dire. C'est la même chose. Pour la planification, c'est la même chose pour les projets.
Alors, M. Issoufou Seydou, directeur de la coordination et du management de l'information statistique, comment l'INS peut contribuer à l'amélioration du rang du Niger dans le classement de l'indice de développement humain?
D'abord, pour ce qui concerne l'indice de développement humain, il faut d'abord comprendre comment il est calculé. Si vous me le permettez.
Peut-être rappeler les principaux points qui sont pris en compte, notamment l'éducation.
Donc, c'est un indicateur qui a été développé par le programme des Nations Unies pour le développement depuis 1990, c'est-à-dire pour évaluer l'atteinte des objectifs relatifs à l'amélioration des conditions de vie de la population. Comme l'avait souligné M. Menassara, en fait, quand on prend l'indicateur, tout comme l'indice de développement humain, donc ce sont des indicateurs qui sont mis au point pour pouvoir simplifier, d'un point de vue simplifié, donc suivre une situation. L'indice de développement humain a été conçu aussi dans ce cadre-là. C'est un indice composite, ce que nous appelons un indice composite. Au fait, c'est un indicateur donc basé sur d'autres indicateurs. L'indice de développement humain repose sur 3 dimensions. L'éducation, la richesse, donc à travers le revenu national brut par habitant. Donc, j'ai parlé de l'éducation, à travers la durée attendue de scolarisation, au fait pour ceux qui ont moins de 25 ans, et la durée moyenne de scolarisation pour les 25 ans et plus. Et la troisième dimension, c'est la santé, à travers l'espérance de vie à la naissance. Pour son calcul, le Bureau des Nations Unies met en place un groupe d'experts qui se charge de faire le rapport mondial sur le développement humain, le RMDH. pour faire ce rapport, donc, ils utilisent d'autres sources de données. Pour les cas de la santé, donc, les données proviennent donc, de la division pour l'espérance de vie, donc de la division de la population des Nations Unies. Pour les cas de l'éducation, donc, y a les experts de Harvard donc, qui estiment la durée moyenne de la scolarisation. Et également donc, l'UNESCO qui fournit certaines informations pour ce qui concerne la durée attendue de scolarisation. Quand je prends donc, le revenu national brut par habitant, donc, les données viennent de, parce que c'est par habitant, en parité de pouvoir d'achat. Les données, donc, les sources de données utilisées, c'est le FMI et la Banque mondiale. Maintenant, comment jouer un rôle important par rapport à l'amélioration du niveau de l'IDH du Niger? Donc là, je vais dire que l'INS actuellement assure le secrétariat permanent du dispositif de suivi de l'IDH que le gouvernement donc, a mis en place. Et par rapport à, donc, à ces dispositifs, un certain nombre d'actions prioritaires ont été identifiées et aussi pour voir les goulots d'étranglement par rapport donc on a déjà identifié ces goulots d'étranglement par rapport à chaque dimension et aussi ce qu'il faut mettre en œuvre comme action pour améliorer l'indice de développement.
Vous pouvez nous en dire un peu plus par rapport aux principaux goulots d'étranglement? On sait que l'éducation a toujours été indexée en tout cas comme l'un des indicateurs qui attire le qui fait régresser l'IDH du Niger, en tout cas ce qui plombe le rang du Niger.
Oui, et au fait, quand on prend pour les cas de l'éducation, souvent, donc, toujours, il y a des différences entre les données qu'on dispose, au fait, par rapport, donc, à la durée attendue de scolarisation. Pour la durée attendue de scolarisation, comme c'est l'UNESCO, mais c'est qu'un des éléments importants, c'est surtout pour les cas de la durée moyenne de scolarisation, puisque c'est des données estimées par les experts de l'Université de Harvard. Et aussi, quand on regarde la littérature, au fait, il n'y a pas une méthode de calcul explicite pour les calculs de cette durée moins de scolarisation. Et en tout cas, donc, dans les plans d'action, on a proposé des actions donc, pour qu'on puisse voir donc, comment elle est calculée. Et est-ce que aussi donc, c'est en harmonie avec les méthodes de collecte qu'on avait, ou bien donc, voir dans quelle mesure donc, on peut pouvoir améliorer la situation donc, de l'éducation.
Dans tous ces processus, est-ce que les données produites par l'INS sont prises en compte à quelque niveau que ce soit pour le calcul de l'IDH du pays?
Oui, il faut relever que, au fait, on opère dans un système. C'est-à-dire, pour ce qui concerne les statistiques de l'éducation, comme je le disais, il y a les services donc, des statistiques des ministères donc, qui sont dans les systèmes statistiques nationaux. Mais ce qui, au fait, pour ce qui concerne l'IDH, pour ce qui concerne le revenu par habitant, au fait, là, il n'y a pas de grands écarts donc, entre ce que nous fournissons et ce qui est utilisé pour les calculs de l'IDH. Donc là où donc, on a surtout
des écarts,
c'est surtout pour ce qui concerne la santé, parce qu'au fait, quand les Nations Unies donc, avaient revu leurs calculs, puisqu'il a été relevé donc, une baisse de l'espérance de vie à la naissance, donc, que nous-mêmes, on n'a pas compris, on a même écrit donc, au bureau des Nations Unies donc, pour comprendre pourquoi la baisse. Pour les cas de l'éducation, au fait, et ce qu'on avait relevé, pour ce qui concerne toujours la durée attendue de scolarisation, on a comme l'impression que les 5 dernières années, ça n'a pas changé. Il est de 5 ans donc, au Niger. C'est aussi le cas donc, de la durée moyenne de scolarisation, donc on n'a même pas la méthode explicite de calcul. Donc voilà pour ce qui concerne au fait la confrontation des différentes sources de données.
Alors, merci. Nous terminons par les difficultés. Ça ne manque pas. Quelles sont aujourd'hui les principales difficultés que l'INS rencontre dans la collecte, le traitement et l'utilisation des données statistiques?
Et donc, les difficultés sont déjà consignées donc, dans notre stratégie de développement de la statistique, la SNDS. Donc, pour passer rapidement donc, en ce qui concerne ces difficultés, une des contraintes majeures, c'est surtout les problèmes de culture statistique. En fait, donc, en tout cas, on est en train de mettre en place des actions pour pouvoir améliorer la culture statistique.
Donc, et la culture statistique, qu'est-ce que c'est?
La culture statistique, c'est la compréhension donc, qu'on devrait avoir de l'importance et de l'utilité de la statistique. Ce n'est pas tout le monde donc, qui a cette culture statistique. Parce que un des témoignages l'a confirmé par rapport à l'importance de la statistique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas planifier sans statistique. Mais c'est qu'on veut aussi que ce soit compris de la part des acteurs. Et en tout cas pour les cas donc du Niger, donc beaucoup reste à faire.
Donc c'est une des goulots d'étranglement identifiés,
notamment
le manque de cette
la faiblesse de la culture statistique. Bien. Effectivement.
Quoi d'autre?
Et l'autre aspect aussi donc comme j'ai dit quand j'ai défini la statistique, c'est une affaire d'État. Donc c'est un secteur de souveraineté. Et l'autre goulot d'intégration, donc c'est en lien avec les contraintes de financement. Donc, que ce soit le financement de l'État et aussi le financement de la part, puisque la statistique donc demande beaucoup de ressources pour faire des enquêtes, il faut beaucoup de ressources.
Ouais.
Et l'autre goulot d'intégration donc c'est le manque des ressources financières, le manque des ressources matérielles et humaines.
Ouais.
Parce que quand j'ai parlé du système, c'était à l'INS qui est l'organe central.
Ouais.
Mais c'est que l'INS est appuyé, puisque pour améliorer, par exemple, pour les cas de statistiques de l'éducation, cette l'INS donc intervient dans le processus de validation des données, dans certains cas.
Mm-hmm.
Mais c'est que, au fait, c'est aux structures sectorielles de produire ces données. Souvent, donc, il y a des structures sectorielles qui sont seules.
Mm-hmm.
C'est-à-dire, on trouve les DS seuls.
Mm-hmm.
Et souvent, même si les DS sont seuls, donc, c'est pas dans tous les cas où on a des professionnels de la statistique. Donc, là aussi, c'est une des difficultés auxquelles est en train de faire face notre système statistique national.
Et dans le volet traitement et diffusion de l'information statique, c'est le même problème qui persiste, c'est toujours les problèmes de moyens.
Oui, quand j'ai parlé au fait des problèmes des ressources matérielles et humaines, puisque quand je parle des ressources, des contraintes en matière de ressources humaines, il y a les questions aussi des capacités techniques et aussi des capacités matérielles. Voilà.
Monsieur le directeur général, vous, à votre niveau, est-ce qu'il y a une difficulté quelconque dont vous voudrez bien nous faire part par rapport à la collaboration, par rapport au recours aux données statistiques pour vos programmations?
C'est déjà à relater certaines des difficultés. Quand on planifie, il nous faut des données. Et si ces données ne sont pas produites, effectivement, il y aura des insuffisances pour comprendre les vrais problèmes auxquels il faut trouver des solutions. Donc, il y a des problèmes de voir de disponibilité des statistiques. Et il l'a relaté. Mais deuxième élément, je pense que ce n'est pas seulement au niveau des statistiques, seulement qu'on a des problèmes des ressources humaines, même dans le domaine de la planification. Quand vous passez en revue les effectifs au niveau de ce qu'on appelle les directions des études et de la planification des ministères, des fois, vous n'avez qu'un agent, le directeur seul ou directeur avec un agent.
Qui est qualifié pour...
Et des fois, les qualifications ne sont pas évidentes. C'est-à-dire, vous avez un directeur des études de la planification qui n'est pas planificateur. Et alors là, effectivement, il va y avoir des problèmes.
Parce qu'il faut faire recours à d'autres personnes, ressources, d'autres experts.
D'abord il faut, c'est lui le bras armé du ministère en termes de planification, et il ne l'est pas. Ça veut dire qu'il y a une première insuffisance en termes de qualification, au-delà du problème des ressources humaines. Donc ça c'est un sérieux problème en ce qui concerne aussi bien les statistiques que le domaine de la planification. Tout à l'heure, vous avez posé, excusez-moi de revenir sur la question de l'IDH. Vous savez, le volet éducation, le principal problème en réalité, c'est les données. C'est la production des données. Vous avez certains pans où les données sont disponibles. C'est-à-dire donc, si vous prenez l'enseignement primaire, les données sont produites chaque année. L'enseignement secondaire, mais faites la situation sur l'enseignement supérieur. Vous avez des années qui chevauchent d'une année à une autre. Difficilement, on a donc la série des données relatives à une année. Or, c'est ça qu'il faut prendre. N'ayant pas ça, effectivement, ces institutions font des estimations.
Tant qu'un maillon de la chaîne
n'a pas produit son annuaire statistique, ils ne prennent pas donc les données disponibles. Effectivement, il y a les efforts qui sont faits, mais qui ne sont pas reflétés dans l'indicateur qui ressort. Donc c'est ça qui, en fait, dans le plan d'action dont il a évoqué, c'est une préoccupation qui est ressortie. Un des goulots, c'est faire en sorte, plutôt une des solutions, c'est de faire en sorte que tous les maillons de l'enseignement puissent produire chaque année leur annuaire statistique. Et donc, l'INS est engagé pour, en tout cas le gouvernement a instruit l'INS pour cela.
Alors, pour terminer, concernant les perspectives, quelles sont, à votre avis, aujourd'hui, les mesures qu'il faut envisager pour prendre en compte les données statistiques et faire une meilleure utilisation dans le processus d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi évaluation des politiques et programmes de développement? Quels sont aujourd'hui les points prioritaires sur lesquels travailler?
Premier élément, il faut faire en sorte que leurs répondants, les statisticiens qui sont dans les ministères, soit des vrais statisticiens. Vous ne pouvez pas utiliser une donnée par quelqu'un qui ne parle pas le même langage que vous.
Donc, premier élément.
Il faut que, donc ça, c'est le premier élément. Les ressources humaines, donc les directeurs des statistiques, il faut qu'ils répondent au profil des statisticiens. S'ils ne répondent pas, il faut les former. Donc ça, c'est un premier élément. Mais le deuxième élément, il faut faire en sorte que les données soient produites.
Et disponible à temps.
Exactement, produite et disponible à temps. Donc, ça aussi, ce sont des éléments, en tout cas, que je voudrais évoquer. Mais le troisième élément, c'est le financement. Pour avoir tout ça, les données à temps, et en même temps des ressources humaines de qualité, il faut des financements. Il faut améliorer le financement du système statistique national.
Est-ce qu'au niveau de la collaboration entre vous, le ministère et cette institution, est-ce que la collaboration est saine? Est-ce qu'il y a une compréhension de l'objectif final attendu à est-ce tous les niveaux?
Oui. Le ministère du Plan, c'est lui qui a défendu la loi statistique. C'est lui qui défend auprès du gouvernement pour dire la loi statistique qui prend en compte ce que nous sommes en train d'évoquer, la qualification des ressources humaines.
Ouais.
Deuxièmement, le financement du système statistique, elle est portée par la ministre en charge du plan. Et elle l'a fait et elle l'a passé. La SNDS, ce qu'on appelle la stratégie nationale pour le développement de la statistique, ça aussi c'est porté par la ministre en charge du plan qui a défendu ça et ça a passé en conseil des ministres. Le troisième volet en termes de financement, et la ministre du Plan, chaque jour que de fait, elle se bat pour que l'INS puisse avoir des ressources. La preuve, avec la Banque mondiale, un financement a été négocié. Et avec le MCC, il va vous le dire. Mais les besoins sont énormes. Ça, là, ça ne permet pas de combler vraiment le gap en termes de production des données statistiques. Voilà en résumé ce que je pourrais dire par rapport à votre question. Merci.
Bien. Monsieur Youssouf Saïdou, par rapport aux perspectives, le volet financement, vous l'avez soulevé en ce qui concerne en tout cas les principales difficultés que vous avez au niveau de l'INS. Il y a un projet de mise en place d'un fonds national pour les statistiques, pour financer les activités statistiques. Est en cours. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus par rapport à ça?
Oui, effectivement. Et pour ce qui concerne donc les différentes contraintes que j'ai relevées, donc les principales, et en tout cas donc il y a des actions donc qu'on a inscrites donc en termes de perspectives. Pour le cas des financements, donc pour commencer avec les financements dont vous avez fait cas, et puisque surtout donc c'est le financement de l'État. Donc, à cet effet, l'INS avait commandité une étude sur les mécanismes de la mise en place d'un fonds national de développement de la statistique. Et cette étude donc, a fait des propositions qui ont abouti à un prélèvement de 35% de la redevance statistique pour alimenter le fonds national de développement de la statistique sous forme d'un compte spécial de trésor. Et maintenant, pour mettre en place le fonds, l'étude a fait des propositions à ce que ce soit fait sous forme d'une loi statistique. Et à cet effet, donc, nous avons pris les dispositions
pour l'élaboration
réviser la loi, la loi statistique. Puisqu'on avait profité aussi donc, pour intégrer dans la loi, puisque vous avez parlé du cas des professionnels de la statistique.
Oui.
Donc, monsieur le DGPP en a fait
cas. Notamment la qualification.
Notamment la qualification. Au fait, l'INS aussi, donc, il faut relever, c'est un aspect important, parce qu'actuellement, nous avons une quinzaine de nos cadres qui sont dans les ministères, pour les accompagner à mettre en place les systèmes d'information statistique. Là, on le fait aussi donc, en fonction des ressources qui sont à notre disposition. Mais souvent, donc, il y a des docteurs de statistique qui sont nommés sans l'avis de l'INS. Dans la loi aussi, donc, on a intégré au fait, la demande de l'avis de l'INS avant la nomination donc, des professionnels de la statistique. C'est dans la loi qu'on avait intégré donc, et le fonds et aussi donc, l'avis de l'INS pour la nomination des DS. Dans la loi aussi, nous avons intégré le visa statistique.
C'est dans la loi ou dans le projet de loi ?
Dans le projet de loi, donc qui est dans le processus d'adoption. Et si vous le permettez aussi, donc, comme on parle de perspective, parce que j'ai cité donc, un certain nombre de contemples. Donc pour le financement, donc, voilà, il y a le Fonds national de développement de la statistique. En dehors de ça aussi, au fait, pour rendre efficient et efficace les interventions des partenaires, nous sommes en train donc de mettre en place un groupe de partenaires techniques et financiers pour le développement de la SACIC. Là aussi, donc, c'est pour mieux orienter les interventions des PTF et les rendre beaucoup plus efficientes et efficaces. Et pour ce qui concerne la culture statistique, nous avons développé des partenariats avec les journalistes, donc à travers le réseau des journalistes pour le développement de la SACIC, avec l'Assemblée nationale, avec, à travers le réseau des parlementaires pour la promotion de la SACIC, avec également les chefs traditionnels, avec, à travers l'association des chefs traditionnels du Niger, au fait, pour améliorer et renforcer la culture statistique donc, de la part des acteurs.
Merci. Voilà. Et c'est sur ces mots que prend fin le forum d'aujourd'hui sur les statistiques nationales. Quelle contribution dans le processus de développement du Niger ? Il ressort de nos échanges que les données statistiques sont d'une importance capitale, aussi bien dans le diagnostic ou l'analyse de situation que dans la planification, la mise en œuvre, le suivi et évaluation des politiques, programmes et stratégies de développement. Les données statistiques sont aussi des indicateurs auxquels font recours les partenaires au développement, les chercheurs et même les médias à des fins variées. Il existe cependant certaines contraintes qui entravent la production à temps de données statistiques de qualité. Il s'agit notamment de contraintes d'ordre financier, humain et matériel. D'ores et déjà, selon nos invités, des démarches sont entreprises pour trouver un mécanisme efficace de financement du secteur de la statistique. Nous étions en compagnie d'Issoufou Seydou, directeur de la coordination et du management de l'information statistique, et Maynassara Assoumane, directeur général du plan et de la prospective. Présentation Alassane Kouzi Mahamadou, volet technique assuré par Issa Lawali. Bonsoir.